vendredi 20 janvier 2017. Bienvenue à l'émission Les Voix de service magazine. Hélène Denis avec vous. À mes côtés, Catherine Brunet. Bonjour Catherine. Et deux nouvelles collaboratrices, Hélène Bédard et Alexandra Blaison. Bonjour et bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, mesdames.
Merci, bonjour, bonjour, merci.
Première donc pour vous deux, on va faire les choses tranquillement, en douceur, et puis chacune d'entre vous, vous lirez un texte. Allons-y donc avec la présentation de vos sujets. On va tout de suite casser la glace. Hélène, de quoi allez-vous nous parler ce matin?
Eh bien, je vais vous parler de transport contact.
Transport contact. Bon, alors ça nous met tout de suite dans l'ambiance et ça éveille notre curiosité. Alexandra, vous?
Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de bien choisir ses mots.
Oh, c'est vrai que c'est important, ça. Catherine?
Je vais parler de jazz. En fait, je recommence à lire le nouveau projet, la revue que j'avais entamée il y a 2 semaines. Et cette fois-ci, je parle d'un article qui résonne par rapport au jazz de retour à Port-au-Prince. Super article. Et si on a le temps, il y a un petit portrait que je trouve très intéressant qui est l'architecte Naïd Aboumamsour qui a fondé une organisation qui s'appelle Petite Main.
Merci, merci beaucoup, Catherine. Hélène Bédard, à vous l'honneur de commencer.
Merci. Alors oui, je veux vous parler de transport contact. Et tout de suite, je vais vous préciser que ce n'est pas un nouveau réseau de rencontres. C'est plutôt une question de transport. Et c'est un bulletin qui paraît sur la page web de la Société de transport de Montréal, la STM. Alors, le bulletin d'information du transport contact permet de rester en lien avec la clientèle du transport adapté et de lui fournir une information en lien avec l'actualité. Ce bulletin existe dans une version électronique transmise par courriel. Ceci permet donc, évidemment, de réduire l'empreinte écologique des communications et aussi c'est un outil pour communiquer rapidement avec sa clientèle. Sa production timide au début, il y a 7 ans, à 2 publications par année, est passée maintenant à 6 par année. Donc, voilà. Et à qui est dédié et comment se procurer ce bulletin? C'est dédié, comme je l'ai dit précédemment, aux utilisateurs du transport adapté. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette publication, c'est que nous pouvons l'obtenir en format Word accessible et les clients ayant une incapacité visuelle peuvent ainsi utiliser leur lecteur d'écran pour lire le contenu de l'infolettre. Et également, une version audio est également acheminée à certains clients qui ne disposent pas de ce lecteur d'écran. Donc, tous ceux et celles qui voudraient le consulter peuvent le retrouver aisément sur le site web de la STM. Alors, qui sont donc les utilisateurs, les usagers de ce bulletin? Pour bien comprendre à qui est dédié ce bulletin, ce sont des clients du transport adapté. Alors, c'est un service collectif de porte-à-porte qui fonctionne sur réservation seulement. Alors, elle est destinée aux personnes admises, principalement ceux qui ont une déficience significative et persistante, et à être limitée dans l'accomplissement des activités normales. Avoir aussi des limitations sur le plan de la mobilité justifiant l'utilisation du transport adapté. C'est la raison d'être du transport et de là où découle le bulletin Transport Contact. C'est le service du transport adapté rapidement. C'est un service fiable, sécuritaire, ponctuel, courtois, qui contribue à l'inclusion sociale, professionnelle, économique des personnes vivant avec des limitations ayant un impact sur la mobilité. De quoi parle-t-on? Parle-t-on dans ce bulletin? Évidemment, on parle de transport, on parle d'actualité, comme le dernier bulletin en ligne actuellement. Nous parlons de se déplacer, comment arriver à se déplacer malgré les nombreux chantiers dans la ville de Montréal, faire face aux tempêtes, on est dans la bonne température du temps, l'horaire des fêtes, l'horaire des événements et aussi dans le dernier bulletin, on parle de CIRTA. Mais d'abord et avant tout, il y a de très bons conseils comme, par exemple, comment nous faciliter la vie lors de tempêtes. Ce sont évidemment, ce ne sont jamais des conditions optimales pour sortir, mais plusieurs conseils de sécurité sont donnés pour vous aider à vous déplacer lors de ces événements-là. On mentionne aussi tous les services qui sont requis, qui sont aussi maintenus en cas d'intempérie. Alors, lorsque les conditions sont certaines, vous n'aurez qu'à le consulter directement.
Ça va être pratique, là, parce que lundi, mardi, on prévoit de la neige.
Exact. Alors, nous avons, oui, effectivement, nous avons beaucoup de transports qui sont déjà prévus. Puis, il y a aussi les bus réguliers qui viennent en support. Il y a aussi tous les chantiers. Hein? Je crois que les chantiers sont en hausse à Montréal et ça n'a pas fini de se compliquer. Ça complique drôlement la situation sur la circulation de la ville. Alors, le bulletin donne un avis sur l'évolution des travaux, les meilleures options pour les contourner. Et en même temps, on précise que tous les véhicules pour transporter les gens ont été augmentés. Les temps de parcours ont été modifiés et pour tout cela, vous allez le retrouver, évidemment, sur toujours le même site de la STM. Et aussi, on retrouve dans le même bulletin les horaires des fêtes, des événements. On parle de Igloo Fest, on parle de Barbegazi, la fête des neiges, la descente sur neige de Saint-Denis, la classique montréalaise, la randonnée sur le Saint-Laurent, lune d'hiver à vélo, oui. On parle des demi-marathons, des défis canaux et j'en passe. Alors, tout ça, ça reste à découvrir sur ce bulletin qui est fort complet. À la toute fin du bulletin, on parle aussi de CIRTA. Mais qu'est-ce que c'est, CIRTA? CIRTA, c'est une façon toute simple pour les gens qui sont au transport adapté de faire leur réservation en quelques clics, sans attendre. Ils peuvent faire leur réservation 24 heures par jour sans difficulté aucune. Et vous n'attendez plus, et pour cela, nous sommes convaincus que c'est la chose la plus pratique à faire. Alors, vous allez trouver tout ça sur le site de la SDM.
Un service en or, bulletin transport contact. Un grand merci, Hélène Bédard. Catherine, on sort en Haïti et puis on écoute du jazz.
Absolument. C'est un article qui se nomme « Jazz Blues dans la nuit noire ». L'introduction va comme suit. À Port-au-Prince, le temps d'un improbable festival, le jazz reprend ses droits et résonne jusqu'à tard dans la nuit. Des tap-tap colorés, un trompettiste gêné, les rides d'une vieille dame sur sa galerie, récit intimiste sur fond de jam nocturne. Et c'est un texte écrit par Guillaume Bourgault-Côté. Partout dans l'air, les marteaux martèlent, des toc-toc-toc cadencés et lancinants. En banlieue de Port-au-Prince, le village de Noailles travaille le fort à coups de poinçon, musique métallique qui émerge du travail de centaines d'artisans. S'arrêter, regarder, écouter. Et croiser le regard de cette dame en rose sur sa galerie pastel, un fichu sur la tête. Le visage en rides comme autant de sillons d'histoire. Planté dans le décor du monde avec ce sourire-là, immémorable. Je m'assois dans un coin de sa galerie. On se tait dans le vacarme que font les marteaux sur les poinçons et les poinçons sur les minces feuilles de métal qui se transforment tranquillement en pièces d'artisanat. 35 degrés à l'ombre, mais une brise qui fait du bien. Il demande en créole ce que je fais là. Quelques-uns lui expliquent qu'il y a un festival de jazz et des journalistes qui viennent avec. Elle lève un sourcil, perplexe. « Du jazz? 100 ans de vie et pas une note de jazz », disent ses yeux. Son beat à elle, ce toc-toc-toc incessant, chant du fer découpé dans un vieux baril de pétrole. Les bruits résonnent à mes oreilles tout le temps de la descente en tap-tap vers Port-au-Prince. Deux banquettes de bois sommaires visées à l'arrière d'un pick-up trentenaire, une bonne douzaine de personnes entassées. J'observe les gens, puis le véhicule. Dans un pays où la créativité émerge d'un rien du tout, on peint et décore les tap-tap pour célébrer des personnages publics ou des figures religieuses et vaudous. Des heures de plaisir à analyser ces murales mobiles. Dans le trafic, des portraits de footballeurs Lionel Messi côtoient ceux de vedettes de cinéma ou des hommages à Dieu. Louange à toi par ici, gloire à toi par là, on compense les failles mécaniques par une foi à toute épreuve et des proverbes imaginatifs. Certains optent pour un trait d'humour. Nul ne sert de courir, il faut partir à point. Ce qui n'empêche pas le chauffeur de rouler à tambour ouvert sur une route défoncée. D'autres se font philosophes et généreux. Le soleil luit pour tous. Quelques-uns ont la mine basse, la vie pas facile. On avance collé, collant et ballotté. Chaleur et fatigue, je cogne des clous en pensant à la vieille dame de Noailles. Réveil en sursaut lorsque le tap-tap s'arrête brutalement pour faire grimper 5 ou 6 écoliers qui rentrent à la maison. Nous sommes déjà en surcapacité. Oui, mais non. La notion est de la géométrie est variable. On se sert un peu plus, c'est tout. Et c'est dans cette promiscuité de cannes de sardines qui se passe un truc absolument doux. Les adultes prennent en charge les écoliers, offrent un genou ou un coin de banquette, taquinent les enfants, leur demandent si la journée a bien été. On en prend soin, façon de dire que les petits des autres sont aussi les miens. Je pense au métro du matin, Montréal en hiver, la lutte pour un siège. Il y a des leçons en soi, Port-au-Prince, de l'humanité. Il est monté dans le tap-tap discrètement près du point d'entrée. Un étui de trompette à la main, grand et flanqué, 6 pieds et 2, peut-être 130 livres. Les yeux fuyants, la peau foncée, plus que n'importe qui autour. Il serrait jalousement son instrument protecteur. Je ne l'ai pas vu s'éclipser, avec sa trompette, assurément, mais sans tambour. Le soir tombe sur Port-au-Prince et l'heure est au jazz, un petit festival improbable à travers le chaos post-tremblement de terre, tenu à bout de bras par une couple de passionnés. Sûr qu'il y aurait eu plus de facilité à présenter un festival de musique Compass. Musique de danse traditionnelle, mais ils aiment le jazz créole et sa rythmique caribéenne particulière. Sur l'une des scènes extérieures disséminées dans la ville, des groupes se succèdent et déploient les teintes du jazz. Fusion, afro-américain, gospel, latin, chanté. Diplomates assis sur des chaises pliantes, locaux qui dansent dans le rythme s'élève. Aux entraques, une fanfare de rara haïtiens viennent mettre un peu d'huile sur le feu avec son assortiment de trompettes en bambou, de maracas et de cloches en métal. Public attentif, en toute chose, aux sonorités qui sont là. Pour une bière froide, c'est au fond, à l'arrière d'un camion. Un couple s'y tient avec des réserves de prestige, la bière nationale et des glacières bourrées de glace. 1 $ l'unité. Juste à côté, le kiosque de Rome est pris d'assaut par des jeunes qui veulent profiter d'une promotion express comprenant le mot « gratuité ». La musique, les gens, la chaleur, résiduelle d'une journée qui tiédit lentement, le blues bleuté tire d'un piano qui se désaccorde subtilement dans l'humidité. Impression de flottement, bien-être léger dans un espace-temps de longueur.
Nan fè mwen zye dou, mal ton dedans. T'es blé m'bon les ciel, ou même manqué femme fou. Ma chère dit m'sauf les vins, ou son bataille qui chère. Oui, lélé.
Papi et sous-domé, oh, oh. Papi et sous-domé.
Gardez ma chère, papi et sous-domé.
Papi et sous-domé,
hey, hey.
Papi et sous-domé, pour vous tout.
Cherchez mouche,
papi et sous-domé.
Oh, oh.
Papi et sous-domé,
ma chère, papi et sous-domé.
Papi et sous-domé, papi et sous-domé. Papi et sous-domé, pour vous tout.
Ou t'es gonfier tes selles, l'aime t'es fait grand. Où yon kamri pour trouver trop petit. Dis-moi qui ça pour faire, ma chère. Où sont l'enfer? Démêlé ou en joint, mais un jour, fais chemin ou m'a fait pas.
Papi et sous-domé,
oh, oh.
Papi et sous-domé.
Gardez ma chère, papi et sous-domé.
Papi et sous-domé,
hey, hey.
Papi et sous-domé.
Où tout cherchez mon chère.
Directement de Haïti, on écoutait Lol Lolé, Papi et Sodome.
Catherine, vous poursuivez cette lecture du Festival de jazz de Port-au-Prince qui concerne le Festival de jazz, une lecture que vous avez puisée dans le nouveau projet texte de Guillaume Bourgault-Côté. On continue de voyage avec vous.
Absolument. Il y a cela avec Port-au-Prince, comme dans une phrase célèbre du défunt joueur de baseball Yogi Berra, « Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini ». Il y en va ainsi des revirements politiques qui rythment la vie du pays. Ne jamais rien tenir pour acquis. Même chose pour ce festival de jazz qui commence réellement quand s'achève la programmation officielle débute le jazz. Comme si le début de soirée ne servait qu'à faire le pont musical entre le jour et la nuit, à basculer d'une lumière drue au noir opaque de Port-au-Prince, si peu d'éclairage dans les rues, en y mettant une touche de blues jazz. Et il n'est question pour personne d'aller au lit de sitôt. Cette musique est affaire nocturne, et le célèbre jazzman américain Thelonious Monk a déjà tranché le débat dans les années 1940, « Tout se passe round midnight ». Parlons de Monk. On se fait la remarque dans le Jeep qui nous emmène vers le bar de quartier Paco, qu'il fait partie de la liste de ceux dont les noms ou prénoms semblaient destinés à nourrir la légende. Mung, Miles, Coltrane, Chet, Mingus, Nina, Getz. Ils ont du staccato en eux, de la poésie dans le phrasé, une once de magie embusquée. À d'autres géants, des surnoms du même genre, Bird, Dizzy, Satchmo. Et surtout, ce prince des ténèbres qui était Davis, trompette feutrée pour affronter la nuit et ses démons. D'ailleurs, il est là, le trompettiste du tap-tap. Je le vois assis, caché près du grand arbre qui domine la cour intérieure du bar où l'on s'apprête à lancer un long jam. Même posture que plus tôt, le dos rond, d'un corps trop grand trop vite, la gêne imprimée au visage, la trompette serrée dans ses mains. Je le vois fixer la scène et les musiciens qui arrivent et branchent des fils, gestes machinaux des gens qui vivent sur et autour de la scène. On me tape sur l'épaule, mon plat est là. Il est 23 heures, j'ai pris le poulet créole avec des bananes pressées, tranchées, écrasées d'une banane verte que l'on fait frire. La sauce créole est astronomiquement bonne, mais Eddie, le serveur, m'explique que ça ne sert à rien de demander la recette. Notamment parce que l'ingrédient central à tout se porte le nom du pays. Il faut être en Haïti pour que la sauce créole goûte la sauce créole. Et le vrai de vrai secret, c'est un mélange d'air ambiant et d'impalpables parfums, dit Eddie en retournant vers la cuisine, fier de son résumé. Même chose pour la bière nationale qui peut être achetée à l'étranger, mais qui n'aurait pas le même goût. Dans ce cas, c'est le soleil qui fait la différence. Il faut avoir subi la chaleur du jour et le chaos organisé de Port-au-Prince pour apprécier la fraîcheur d'une bière que l'on garde à peine au-dessus de zéro. Dès qu'on la sort du frigo, saisie par le temps qu'il fait dehors, elle se couvre d'un voile de buis. La bière frissonne. Alors tout serveur qui se respecte va nouer une serviette de table autour de la bouteille. Voilà l'origine de la bière en chemisette, l'une des innombrables expressions qui font d'Haïti une source infinie de poésie. Et voilà le jazz sur le point de commencer. La richesse du jazz tient beaucoup à son caractère mouvant. Un même standard joué par un même musicien sera chaque soir différent. Question de rythme et de tonalité, de ces détours qui apparaissent et modifient le chemin, improvisation, création spontanée, bâtir et vivre le moment présent. Et c'est là l'essentiel même d'un jam, le ground zero de la démarche. Sous les branches du grand arbre, ils sont 5 ou 6 à monter sur la scène. Ils s'accordent, se placent. En attendant, le public parle, mange, discute politique. Comment faire autrement dans un pays plongé dans une crise perpétuelle? Chacun a son opinion sur les tenants et aboutissants de ce qui se passe. Un ancien ministre tente, pour sa part, de m'expliquer le problème de la perception des impôts sur son pays. Comment voulez-vous qu'on exige qu'une population pauvre qu'elle paie les impôts que nous-mêmes, les privilégiés, n'avons jamais payés? Bouchée de poulet, gorgée d'eau. Impossible, reprend-il, c'est impossible. L'État est condamné à faire sans. C'est le deuxième à me dire la même chose en 2 jours, et sur ce constat lapidaire, il quitte le bar théâtral. 2 ans plus tard, de retour au même festival, c'est le bordel. La tenue prévue, puis l'annulation à la dernière minute du 2e tour de l'élection présidentielle provoque de nombreuses manifestations. Pneus brûlés, pare-brise éclatés, slogans emmêlés. La ville est sous tension, les organisateurs s'arrachent les cheveux. Spectacles déplacés, artisans qui se désistent, public moins nombreux que prévu. Les tuiles s'accumulent. Mais c'est Port-au-Prince, on s'adapte, on s'improvise. Attitude jazz. Mandela a écrit que la politique peut être renforcée par la musique, mais la musique a une puissance qui défie la politique. Alors aux troupes électoraux, on oppose au jazz. Au grabuge de la rue, un blues qui a connu les chants de coton. Et ensuite, on se replie dans un bar. Où, bien sûr, il est là, Alexis, un peu moins maigre, un peu plus sûr de lui, et toujours accroché à sa trompette, pas trop loin de l'arbre. Il surgit le premier soir, n'hésite pas à joindre le jam en cours. Même chose le lendemain. Je regarde, ses joues gonflées. J'écoute son jeu, la trompette un peu plus haute, qui pointe vers les étoiles parfois. Alexis, le musicien qui lance dans la rue noire quelques notes blues dans un cuivre autour. Chaque soir, le même scénario se répète sous les couleurs différentes, série de spectacles encadrés, puis d'improvisations rassemblant qui souhaitent s'y joindre. Et chaque soir, planqué dans l'ombre, le trompettiste du tap-tap, timide et volontaire, qui écoute d'abord, avant d'oser, d'oser sortir son instrument. Qui a souvent du mal à s'inscrire dans la partition du moment, mais qui souffle et souffle et souffle, jusqu'à trouver le ton de l'intervention. Il y a dans la rythmique de son entêtement quelque chose qui rappelle les marteaux de Noailles. Je l'écoute attentivement d'un soir à l'autre, ni brillant, ni mauvais. J'essaie de mesurer les efforts que lui demande sa volonté. Plus grande que la gêne, la soif d'apprendre de ceux qui ont la chance de pratiquer le métier. Au pays comme ailleurs. On l'appelle Alexis, mais c'est au fond un anonyme, un prince des ténèbres à sa façon, de ceux qui colorent la nuit haïtienne furtivement.
Le grand Miles Davis qu'on entend ici à la trompette, ça donne le goût vraiment d'écouter du jazz.
Absolument.
De manger des plats créoles.
Et de voyager aussi.
Oui, et d'adopter l'attitude jazz.
As-tu l'attitude jazz, Hélène?
Le plus souvent possible. Et toi, Catherine?
Aussi, absolument. Donc, c'est un texte qui se nomme « Jazz Blues dans la nuit noire » par un nouveau projet écrit par Guillaume Bourgo-Côté.
Merci. Alors, des courses de boîtes à savon, ça vous intéresse? Les festivités du 375e anniversaire de Montréal sont commencées. C'est l'occasion de reconnecter avec les traditions bien de chez nous, comme cette amusante proposition de courses de boîtes à savon. La rue Saint-Denis devient une grande piste de courses à obstacles qui accueillera les bolides faits à la main. Pour participer, il faut être 4 personnes par équipe et avoir quelques habiletés pour bricoler un taco. Si vous ne vous sentez pas trop pilote dans l'âme, le spectacle est aussi fort distrayant. Alors, la descente Saint-Denis a lieu samedi, rue Saint-Denis, il va sans dire, entre Sherbrooke et Emery, de 10h30 à 17h, et il y aura un party d'après-course jusqu'à 20h. 75$ pour participer. Pour plus de détails, vous faites descente au pluriel saintdenis.com. Autre suggestion, brunch sous les tropiques. Hein, vous parliez d'Haïti. Laissez janvier à l'extérieur à l'occasion du deuxième brunch tropical, malgré que janvier de ce temps-ci, il est assez doux. Au Café L'Artère, à l'entrée de Parc Extension, les rythmes du sud du collectif Tombao prennent d'assaut le déjeuner. Après une première expérience réussie la semaine dernière, l'équipe remet ça pour faire profiter petits et grands de son goût de la fête. Brunch tropical dimanche. Au Café L'Artère de 10 à 16 heures, déjeuner au prix de 17 $ pour les adultes et 14 $ pour les enfants. Il faut réserver à info@artere.coop, C-O-O-P. L'émission Les Voix de service magazine se poursuit dans quelques instants. Oui, oui, Mathieu. Avec nos nouvelles collaboratrices qui sont Hélène Bédard et Alexandra Blaison. D'ailleurs, Alexandra va nous parler tantôt. Elle va nous lire un texte à propos de l'importance de bien choisir ses mots. Et on entendra aussi Catherine Brunet, notre collaboratrice, depuis maintenant 3 semaines, qui va lire autre chose. Je pense que vous allez parler d'un texte qui concerne le cégep, Catherine.
Oui, possiblement. On verra. À tantôt.
Qui est la belle inconnue, la dame en bleu seule à sa table. Je me sens fou de l'avoir vue, comme j'aimerais qu'elle me regarde. Je n'ai jamais vu s'ennuyer une femme avec tant de charme. Et si j'allais lui parler, peut-être qu'elle pourrait m'aimer. À cause d'un regard, maintenant plus rien ne nous sépare. Je suis amoureux de la dame en bleu. Toi, ma belle, belle inconnue, tu m'attires et tu me charmes. Tu m'as rendu amoureux de la dame en bleu. Dis-moi qu'on se reverra, que ce n'est pas l'histoire d'un soir. Je veux te garder dans mes bras, de peur de ne pas te revoir. Toi, ma belle, belle inconnue, viens danser encore une fois. J'imagine ton corps nu qui m'invite à chaque pas. À cause d'un regard, maintenant plus rien ne nous sépare. Je suis amoureux de la dame en bleu. Toi, ma belle, belle inconnue, tu m'attires et tu me charmes. Tu m'as rendu amoureux de la dame en bleu. Thank you.
cause d'un regard. Maintenant plus rien ne nous sépare. Je suis amoureux de la dame en bleu. Toi, ma belle, belle inconnue, tu m'attires et tu me charmes. Tu m'as rendu amoureux de la dame en bleu.
Ah, The Lost Fingers qui chantait avec Michel Louvain le succès La Dame en bleu.
Et je sais pas si c'est un hasard, mais celle qui va parler, elle est habillée en bleu, Alexandra Blaison. Comment allez-vous, Alexandra?
Très bien, merci.
Alors, on vous écoute dans la première lecture de votre premier texte à Canal M sur l'importance de bien choisir ses mots.
Tout à fait. Donc là, j'ai choisi cet article qui va nous parler un petit peu des mots que l'on utilise au quotidien et donc qui vont influencer ce quotidien. C'est un article qui est paru dans Ma Santé un jour à la fois ce mois-ci. Il s'intitule donc « L'importance de bien choisir ses mots » et il a été écrit par Sonia Tremblay, thérapeute en relation d'aide. Vous êtes-vous déjà attardé à écouter votre discours intérieur ? Vous êtes-vous déjà surpris à utiliser des termes durs, voire impitoyables à votre endroit ? À un moment ou à un autre, je crois que nous l'avons tous fait. De tête de linotte à « je n'ai donc pas bien d'allure », nous nous sommes attifés de superbes superlatifs pour nous taper sur la tête. On peut le faire en riant ou en sacrant. On peut le faire en criant ou en pleurant. Peu importe. Le message est envoyé et enregistré. Ce qu'on pense de soi, on le devient, a dit William James, psychologue du siècle dernier. Ça laisse à réfléchir. Pensez au nombre de fois où vous avez entendu quelqu'un dire « Ces situations déplaisantes-là, ça n'arrive qu'à moi. Je suis tellement malchanceux. Tous les virus qui passent, je les attrape. » Qu'est-ce que votre subconscient capte, vous croyez ? Que ce que vous énoncez est une vérité. Il enregistre qu'il doit créer dans la réalité ce que vous lui donnez comme information. Que la malchance vous poursuit, que vous êtes l'être le moins chanceux du monde, que les problèmes vous courent après et j'en passe. Dans son livre « Le pouvoir des mots qui me libère », Jacques Martel explique le phénomène simplement. Il mentionne entre autres que chaque fois qu'une pensée négative sur soi-même est énoncée, c'est un peu comme se jeter un mauvais sort. C'est entretenir l'idée qu'on est dans une classe à part, celle des nés sous une mauvaise étoile. Il poursuit ainsi. J'ai dit que les mots transportaient une énergie en eux-mêmes. Ainsi, à chaque fois que je me dévalorise, que je me critique, que je me sens coupable, c'est autant de façons d'amener une énergie négative sur moi pour me détruire. J'ai maintenant pleinement le choix d'arrêter de me détruire avec des pensées ou des paroles négatives et de me nourrir davantage de mots positifs remplis de lumière. Récemment, lors d'un séminaire auquel j'ai assisté, on nous a rappelé l'importance de nous appuyer sur nos forces et de mettre en lumière nos peurs et nos défis de façon à pouvoir les regarder en face et, à défaut, de les mettre KO, savoir les prendre par la main pour éviter d'en être esclave. Plutôt que de s'abaisser quand on doit conjuguer avec les facettes les moins rayonnantes de soi-même, il suffit simplement de les reconnaître. Quand on devient conscient de nos pensées, on peut plus facilement les orienter vers le but visé. Et ce n'est pas en se répétant qu'on est donc bien nul en mathématiques qu'on devient meilleur, au contraire. En agissant de la sorte, dès qu'on se retrouve dans une situation de calcul, on devient stressé, fermé, bourru et surtout inefficace. Pour être en mesure de créer la réalité que l'on se souhaite, il faut que nous allions puiser dans ce qui est réel. C'est donc en nous appuyant sur ce qui est notre soi véritable que nous pouvons construire un message intérieur positif et réaliste. Ce n'est pas en se cognant sur la tête qu'on s'améliore et que la vie est plus belle. L'autopunition ne donne que très rarement de bons résultats. Et si elle en donne, c'est que l'estime de soi est bien amochée pour croire qu'elle doit s'infliger ce traitement. Il en va de même avec la vie dans laquelle on évolue. Si on ne cesse de se dire qu'on est né pour un type 1, les chances qu'on stagne sont grandes. Tous les jours, nous avons des occasions de nous améliorer et de vivre plus heureux. Il faut que l'on croie profondément que ce droit nous revient. Si on se connaît suffisamment bien et qu'on table sur notre potentiel pour guider nos choix, avancer, changer notre vie et la rendre agréable et florissante, il est évident que notre discours intérieur devra être en harmonie avec qui nous sommes et respecter les forces que l'on possède. Ce n'est pas de la magie ou une quelconque illumination que de croire que nous avons ce privilège. Être crédule serait de penser qu'en répétant à satiété « je n'ai plus besoin de lunettes » nous permettra de jeter cette dernière à la poubelle. De la même façon que j'aurais beau me répéter sans fin que j'ai un nouveau travail merveilleux et enrichissant, si au fond de moi je ne crois pas y avoir accès, que je n'ai pas le sentiment d'avoir assez de valeur, aucune répétition ad nauseam ne sera suffisante. En fait, la stratégie gagnante, c'est de faire un bilan de qui on est, d'identifier des buts concrets et réalistes qui mettent à profit nos forces et être prêt à les déployer. Il ne faut pas oublier qu'un message intérieur irréaliste peut mener à vivre un échec et une perte d'estime de soi encore plus lourde de conséquences. Voici donc quelques règles de base établies par Sylvaine Pasquale, coach et consultante française. Premièrement, avoir un message bienveillant. Se parler à soi-même comme on souhaiterait qu'on nous parle. Deuxièmement, avoir un message formulé au présent. Je cible mon expertise et je trouve un travail qui me convient dans ce domaine, par exemple. Troisièmement, avoir un message auquel on croit. Il ne sert à rien de se dire qu'on mariera un riche prince si on se considère minable et sans attrait. Quatrièmement, avoir un message crédible qui correspond à la réalité. Je m'achète une voiture neuve la semaine prochaine quand on est au chômage n'est pas nécessairement un message gagnant. En revanche, dans les mois qui viennent, mes efforts me permettront d'avoir un emploi et je m'achèterai une voiture neuve d'ici un an est beaucoup plus réaliste. Cinquièmement, avoir un message formulé à l'affirmative, tourné vers ce que l'on cherche. Éviter les tournures négatives et les mots dégradants comme « je ne suis plus nul, je me sens moins moche », etc., ce ne sera pas non plus très efficace. Sixièmement, avoir un message personnel. Inutile de se répéter des phrases écrites par d'autres. Formulez vos messages à votre manière, choisissez des mots qui ont du sens pour vous. En conclusion, vous êtes maintenant prêt à vous créer une nouvelle façon de penser en choisissant bien vos mots et expressions de sorte à faire ressortir ce qu'il y a de plus riche en vous. Votre potentiel réel ne demande qu'à être exploité. Alors dressez le portrait de qui vous êtes, validez-le avec des personnes en qui vous avez confiance et lancez-vous à l'assaut de votre vie la meilleure. Vous y avez droit. Comme on dit, si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou.
Alexandra Blaison, l'article donc, l'importance de bien choisir ses mots, si vous nous rappeliez la source, ce serait bien.
Oui, il a été tiré du magazine Ma santé un jour à la fois, qui est paru ce mois-ci, et écrit par Sonia Tremblay.
Merci. Arrêtons donc de nous punir et aimons-nous un peu plus. Le Cégep souffle sur ses 50 bougies.
Absolument, et on en parle encore dans Nouveaux projets, dans un article qui se nomme « La jeunesse de la vieillesse ». C'est écrit par Jérémy McQueen. Donc oui, les Cégeps ont 50 ans. Alors, ça va comme suit. C'était un samedi matin ensoleillé à la fin de l'été 2015, à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. J'ai indiqué à l'agent de sécurité, endormi, que j'étais là pour le colloque sur l'avenir des cégeps. Il m'a pointé la porte de l'auditorium. En entrant, j'ai souri. C'était bondé de gens manifestement contents de se rassembler. Une majorité de profs, jeunes et moins jeunes. Sur l'estrade, le premier conférencier jouait avec ses notes en attendant de pouvoir commencer. Le sociologue Guy Rocher, 92 ans, l'un des penseurs à l'origine des cégeps. Nous étions réunis ce jour-là pour réfléchir au devenir de cette institution québécoise qui fêtera en 2017 ses 50 ans. L'âge de la jeunesse de la vieillesse, disait Victor Hugo, l'occasion de renouveau éclairé. J'avais envie de célébrer, mais j'étais inquiet. Encore aujourd'hui, je ne sais pas si l'institution survivra à 5 décennies supplémentaires. Pour une raison bien simple, la crise d'identité est perpétuelle, au point qu'elle semble faire partie intégrale du Cégep. Tout au long de son histoire, on a remis en question sa pertinence, son approche et sa pérennité. Le silence s'est fait dans la salle. Guy Rocher a pris la parole en rappelant l'origine des Cégeps, conçus par la Commission Parent, dont il faisait partie. Le but était de moderniser le système éducatif québécois pour le faire sortir de la grande noirceur. Les Cégeps devaient offrir une base culturelle commune au plus grand nombre, faire disparaître les privilèges qu'entretenait le système du cours classique et bonifier les formations professionnelles grâce à l'ajout d'une formation générale. On ne voulait plus que seule l'élite ait accès à la littérature, à la philosophie, à l'anglais et au sport. Le rêve, c'était de voir des élèves se préparant à l'université et d'autres se préparant à une vocation technique et professionnelle assis dans la même classe. Les futurs ingénieurs mécaniques, comme les futurs infirmiers, les futurs enseignants au primaire, comme les futurs policiers. Ce projet de société était si ambitieux que les membres de la commission parents eux-mêmes s'attendaient à voir leur rapport tableté, du moins en ce qui a trait à la création des cégeps. Nous avions le sentiment que ce serait difficilement accepté et même que ce serait probablement rejeté, nous a appris Guy Rocher. À la grande surprise des membres, le gouvernement Lesage a appliqué leurs recommandations et les premiers établissements ont ouvert leurs portes en 1967. Aujourd'hui, avec le recul, le sociologue voit les cégeps comme une anomalie historique et sociale. Les années 1960 qui les ont vus naître représentent à ses yeux une parenthèse dans la ligne du temps du Québec. Si l'on suit cette logique, les acquis de l'époque, cégep compris, semblent voués à disparaître. Pas exactement le pronostic qu'espérait le public venu l'écouter en ce samedi matin. J'enseigne la philosophie au Collège Montmorency, à Laval. Nous, prof des cours de base communs à tous les étudiants, français, philo, anglais, éducation physique, aimons nous voir comme la colonne vertébrale du réseau collégial. Nous souhaitons alors implicitement que les cours spécifiques au programme d'études pourraient être avalés par d'autres institutions, comme ils le sont dans le reste du pays. Sans nous, il n'y aurait tout simplement pas de collège d'enseignement général et professionnel. Il n'y aurait que des écoles secondaires, des universités, et des écoles professionnelles. En 2014, le rapport de Merce a fait craindre le pire aux professeurs de la formation générale. Ce document, issu du sommet sur l'enseignement supérieur de 2013, avançait que la formation collégiale devait davantage s'arrimer au marché du travail et moins se perdre dans les cours de base sans application concrète. Cette critique a des antécédents. Pendant les années 1990, l'un des cours obligatoires de philosophie a disparu. Dans 5 ans, peut-être qu'un autre cours s'effacera du tronc commun. Et peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de formation générale, donc plus de cégep. Pourtant, quand je me suis inscrite à la maîtrise en philosophie, option enseignement collégial, en 2002, on me répétait souvent que le moment était parfait pour choisir cette carrière. Le corps enseignant était au bord de la retraite, la plupart des profs ayant intégré le réseau au moyen de sa formation. Je n'ai eu aucune difficulté à me trouver un emploi. J'ai même refusé plusieurs offres. Ça semblait trop beau pour être vrai. Aujourd'hui, les têtes blanches se font rares au département où j'enseigne et on mélange des X et des Y qui ont pris le contrôle. Dans la sphère publique, le changement se fait plus lentement. Les X commencent à peine à trouver leur place dans les gouvernements occidentaux et le Québec ne fait pas exception. Les décisions se prennent donc avec un décalage générationnel, Y compris en ce qui concerne les cégeps. Quand on y songe, les membres de la commission parents avaient raison de craindre que leur idée soit rejetée. C'était un projet fou et terriblement dispendieux. Pensez un instant à tous les édifices à entretenir, à tous les postes de professeurs à promouvoir. Sans compter l'inéluctable effet domino sur l'ensemble du système d'enseignement supérieur. Les universités auraient à accueillir davantage d'étudiants en littérature, en philosophie, en langue anglaise et en éducation physique pour répondre à la demande. C'est un moment fort de notre parcours national où l'humanisme a triomphé, avant d'être grugé petit à petit par la logique de l'efficacité. Pour reprendre l'expression de Guy Rocher, l'anomalie s'est fait rattraper par la réalité. Le rapport parent, c'était l'exception. Le rapport de mère, c'est la norme. Sauf si on adhère aux thèses bourdieuses concernant le capital culturel et le lien entre érudition et distinction sociale d'un point de vue plus strictement utilitaire. Ne sert à rien de lire L'étranger d'Albert Camus quand on rêve de devenir médecin. Il ne sert à rien de suivre un cours complémentaire de photo quand on veut devenir policier. Le constat est triste, mais indéniable. Ce bagage culturel ne servira à peu près à personne dans sa vie professionnelle. Il existe une réponse à cette critique que j'aimerais écarter d'emblée. Plusieurs de mes collègues défendent l'idée qu'une culture générale, comme une fin en soi, qu'il n'y a pas à se soumettre à des impératifs de rentabilité. Sa valeur n'est pas liée à son usage et toute analyse fonctionnelle ne fera que la rabaisser. Cette vision est largement empruntée à Aristote. Aux yeux du philosophe, si une chose a une fonction, elle en est en elle, en quelque sorte, l'esclave. Une épicerie permet de s'alimenter. L'épicerie est donc au pas de l'alimentation. Être utile, dans cette perspective, n'a rien de noble. Au contraire, Aristote s'enorgueillait du fait que la philosophie ne soit justement au service de rien. L'éloge de l'utile a quelque chose de romantique. La littérature, la philo, l'éducation physique seraient au sommet de la pyramide des nobles sciences humaines. Le perfectionnement de l'anglais s'inscrivant de manière plus évidente dans le cadre des besoins du marché du travail. Une conversation sur la morale de Kant n'a pas à avoir d'application concrète pour être pertinente. C'est tout simplement beau et bien. Mais cet argument ne convainc que nous-mêmes. Pour riposter aux attaques contre le système d'éducation collégiale, il faut emprunter le langage de ses détracteurs. Il faut dire à quoi ça sert le cégep. Le socle commun proposé par le rapport parent était fondamentalement lié à la réalité linguistique et historique québécoise. Il appartenait aux Québécois de définir les éléments essentiels pour leur culture. C'est ce qui en était fait. Et c'est là qu'il faut chercher l'utilité de la formation générale. En lisant un corpus tiré d'une tradition partagée, les jeunes prennent conscience de leur appartenance à une communauté de langue française, aux origines européennes, enracinées en Amérique. Une fin de session où un étudiant doit effectuer un travail sur Honoré Beaugrand en même temps qu'il prépare un examen sur « Grandeur et misère de la modernité » de Charles Taylor, il n'y a qu'ici que ça existe. Ça mérite d'être célébré, peu importe nos allégations politiques. L'affirmation forte de l'identité québécoise dans la sphère politique pendant les années 1960 a été le fruit d'un gouvernement libéral. Il faudrait peut-être le rappeler aux troupes de Philippe Couillard. À la composante collective des cégeps s'ajoute une dimension individuelle, former chaque personne, et lui permettre de se définir elle-même en cours de route. Pas besoin de chercher bien loin pour en voir la manifestation concrète. Il n'est pas rare qu'un de mes étudiants annule plusieurs cours ou change carrément de programme. Certains prennent une session sabbatique. Bon nombre de jeunes arrivent au collège sans trop savoir pourquoi ils se trouvent dans le programme qu'ils ont choisi. Ne pas savoir ce qu'ils veulent, ça les inquiète. Mais ces hésitations font partie du processus collégial. C'est aussi à ça que ça sert, le cégep, prendre le temps de se trouver. Cette possibilité est nouvelle pour les étudiants qui arrivent du secondaire. Ils ne s'autorisent pas toujours à écouter leur cœur, préférant suivre un parcours plus convenu. Sciences de la nature pour se garder toutes les portes ouvertes. Je l'entends souvent. Combien de fois ai-je conseillé à un étudiant de suivre sa passion pour les arts alors qu'il avait peur de le faire? L'argument que je me donne le plus souvent pour les rassurer est l'existence de la formation générale. Peu importe ce qui arrive, ces cours restent au dossier. Donc, une session dans un programme n'est jamais complètement perdue. Le tronc commun permet à l'étudiant de se sentir moins prisonnier d'une décision prise à la hâte au secondaire et de se réorienter. En d'autres termes, il rend moins vertigineux le questionnement identitaire qu'ouvre l'institution. Les cours complémentaires encouragent aussi cette quête de soi. Un étudiant qui hésite à s'inscrire dans un programme d'administration peut suivre ce domaine, peut essayer. C'est salutaire comme une perche tendue aux passions enfouies. Dans la même ordre d'idée, les étudiants disposent d'un large éventail de choix en éducation physique, tennis, natation, entraînement en salle, etc. Pour les aider à trouver une manière de faire du sport qui leur ressemble. En offrant à l'étudiant un juste milieu entre la possibilité de se définir et l'obligation de progresser dans ses cours de base, les cégeps s'avèrent profondément bénéfiques. Mais où se situe le juste milieu? À quel endroit faut-il tracer la ligne entre la liberté de se chercher et la contrainte de contribuer à une culture commune? Irait-on trop loin si les cours de philosophie étaient remplacés par un bloc de cours de sciences humaines parmi lesquels il faudrait choisir, comme c'est le cas dans les cégeps anglophones? Chose certaine, pour que l'identité collective défendue par les cégeps demeure pertinente et actuelle, il ne faut pas se fermer à toute redéfinition de la formation générale. La maintenir telle qu'elle à tout prix serait aussi bête que l'abolir purement et simplement. J'ai pris la pause de dîner en compagnie d'un collègue du Gaspé en sabbatique. Je lui disais que malgré les bonnes intentions des conférenciers de la première moitié de la journée, les discussions restent trop consensuelles. Tout le monde s'entendait pour dire que la formation générale était merveilleuse et qu'il fallait la protéger à tout prix. Bien qu'assez d'accord tous les deux, nous avions quand même le sentiment que même unanimité ne servait pas nécessairement notre cause. Nous rassembler pour nous dire mutuellement que nous étions indispensables, ça avait un jeu de c'est quoi de complaisant. Ça prenait quelque chose plus de plus. Mais quoi? Mon collègue et moi avons lancé des idées en mangeant. Organiser des manifestations, plein de profs qui marchent ensemble pour défendre la pérennité de cette institution qui nous est chère. Ça semble artificiel. Des lettres ouvertes aux journaux. Ça se faisait déjà dans les pages de devoir, surtout sans que de tels textes rayonnent au-delà du petit cercle des gens convaincus. Les conférences de l'après-midi semblaient répéter ce même travers, des profs qui donnent de généreuses tapes dans le dos à d'autres profs. Jusqu'à ce que Christian Nadeau, du département de philosophie de l'Université de Montréal, se lève et brise l'auto-célébration par une question. « Qui sommes-nous? » a-t-il demandé. À l'extérieur du milieu de l'enseignement, que faisons-nous pour montrer notre pertinence dans la société québécoise? Je m'approprie sa réflexion pour l'amener plus loin. Professeur de cégep, nous sommes-nous repliés sur nous-mêmes sans vérité, véritable voix dans la société? Non, pas parce que nous n'en avons pas, mais parce que nous ne la prenons pas. Il y a 4 ans, les étudiants des cégeps nous ont donné une belle leçon d'enracinement social au-delà des murs de l'institution. La grève étudiante historique de 2012 a montré le rôle que peuvent jouer les acteurs de ce milieu dans la société. J'ai la profonde conviction que le printemps érable a été rendu possible par les étudiants du réseau collégial. Contrairement à leurs collègues universitaires qui votent une faculté à la fois, les étudiants des cégeps font la grève en bloc. Cette unité n'existe tout simplement pas ailleurs dans le système d'éducation québécois. Et il conclut en disant « Il serait commode pour un gouvernement conservateur de miner cette force politique. » Et l'un des meilleurs moyens d'y parvenir sournoisement serait de s'attaquer à ce qui lie tous les étudiants des cégeps, la formation générale.
Bien, c'est avec l'article lu par Catherine Brunet qu'on termine cette émission du vendredi 20 janvier 2017. Oui, grand dossier, mais vraiment passionnant. Et ça a été écrit par qui, Catherine?
Jérémy McEwen.
Oui, les 50 ans du cégep. Alors, on va certainement y revenir parce que...
Tout l'année, on fait
l'anniversaire. Oui, c'est ça. On célèbre les 50 printemps du cégep en 2017. Et c'est un dossier que vous avez pris dans votre revue fétiche. Je peux la qualifier ainsi. Nouveau projet. Alors, un grand merci à nos nouvelles collaboratrices Hélène Bédard et Alexandra Blaison. Merci à Catherine Brunet. J'espère vous retrouver.